Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Ah bah, sans micro, 9h50, nous sommes...
Ah, c'est ça le retour, il ne faudrait jamais partir en vacances.
Mais arrêtez, Cécile. Patrick
Non, mais, depuis ce matin, je sens qu'elle se...
voilà.
Elle est là, elle est bien
ça
avec nous, mais bon, encore la tête un tout petit peu ailleurs.
Bah non, là, j'ai vraiment la tête dans le livre Narcotrip, alors là, vraiment, je vous assure. Et nous sommes avec Joachim Barbier, bonjour. Vous êtes journaliste et auteur de ce livre qui s'appelle Narcotrip aux éditions Flammarion. Alors là, ce livre, c'est une enquête, parce que c'est vraiment une véritable enquête où vous dépeignez en 10 tableaux des trafics de drogue. C'est extrêmement inquiétant. C'est une sorte de galerie de 10 portraits plus fous et plus incroyables les uns que les autres. Alors ça passe du consommateur au type qui travaille pour la drogue, au type qui en vend, au petit vendeur, jusqu'au gros trafiquant de drogue. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce livre ? Ça part d'où en fait ?
Moi, comme vous l'avez dit, je suis reporter et puis au gré de mes reportages, on rencontre des gens, comme on dit souvent dans le journalisme, on ne va pas à l'histoire, c'est l'histoire qui vient à nous. Et au bout d'un moment, parce que la drogue est quand même un fait assez moderne, je veux juste rappeler un chiffre, les États-Unis, quand ils lancent la guerre de la drogue en 69-70, avec Richard Nixon, il y a 2 millions de personnes qui en consomment aux États-Unis. Aujourd'hui, 45 ans après, il y a 160 millions de personnes qui ont consommé une fois de la drogue dans leur vie aux États-Unis. Et les États-Unis ont dépensé 1500 milliards de dollars pour lutter contre la drogue.
Ah oui. Ce qui est
énorme. Et effectivement, en France, c'est pareil. Les premières lois, c'est 69.
L'Europe, c'est un peu plus tard. Hein,
oui,
en Europe,
et puis c'est 69-70 en France. Donc voilà, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de consommation de psychotropes. Par exemple, en France, on est le pays qui consomme le plus de cannabis, environ entre 5 millions et 6 millions. Il faut aussi rapprocher ça avec la baisse de la consommation de l'alcool aussi. Donc voilà, donc c'est un fait finalement assez moderne, et moi je voulais raconter ça, mais de façon humaine. C'est quoi un gars qui est dans le cartel du Sinaloa au Mexique, le plus grand cartel du monde? On parle souvent de El Chapo, mais moi je voulais savoir c'est quoi un gars, une petite main, un gars qui doit réparer les armes des sicarios qui après doivent aller assassiner quelqu'un.
Oui, cet armurier incroyable.
Voilà. C'est quoi, parce que le bouquin est un peu construit comme un road trip. Je pars à côté de chez moi, porte de la Chapelle, dans le 18e arrondissement. Les Parisiens connaissent bien ce coin parce que c'est un lieu de deal et de consommation de crack, qui est la cocaïne basée, qui est une des plus addictives au monde, de tous les produits.
Vous appelez la force maléfique du caillou, c'est-à-dire du crack.
Ouais, parce que je voulais discuter avec ces gens qui finalement ont abandonné tout le reste de leur vie. Ils ont des enfants, ils savent pas où ils habitent parce que y a cette drogue a une telle puissance qui fait qu'on est complètement désociabilisé. On ne parle plus, on ne voit plus ses parents, on voit plus ses enfants, on n'a pas d'amis, on fait la manche, aussitôt qu'on a 5 euros, on va sur ce qu'on appelle cette colline du crack.
Oui, vous appelez, vous expliquez quand même que c'est une issue, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des parcours de vie, des accidents de vie, qui
tout à coup
en prennent un, enfin surtout le crack, qui est visible, j'ignorais totalement que c'était addictif immédiatement.
Oui, c'est ce qu'il raconte, c'est-à-dire qu'il suffit d'une fois, c'est une telle puissance et qu'effectivement on devient accro au
telle
bout d'une fois.
Pourquoi ? Parce que ça leur fait oublier leur mauvais moment.
J'en ai jamais pris, mais d'après les témoignages, l'effet est très court, il dure 2 minutes, mais il est très puissant. Je pense que ça se rapproche un petit peu du flash de l'héroïne et que derrière, c'est ce qu'on appelle une drogue du pauvre. Qui a fait des ravages incroyables aux États-Unis dans les années 80, notamment dans les communautés noires, et que une fois, alors je pense que ça dépend aussi de la personnalité, mais quand votre vie est, pardonnez-moi, mais un bordel incroyable. Ouais. Avec ça, on fuit. On fuit et on reste là-dedans.
Je reviens un peu sur ce que vous disiez. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, parce que quand même, quand on lit votre livre, vous parliez du Sinaloa, de Cali aussi, en tout cas du Mexique ou de la Colombie, on se rend compte que finalement, le cartel, c'est souvent les premiers employeurs locaux. Est-ce qu'il faut aujourd'hui légaliser la drogue ?
Je pense, par exemple, dans le cadre de, vous en parlez, du Mexique, c'est pareil, en 2007, on lance la guerre contre la drogue. Avant, les rivalités entre différentes organisations criminelles, c'est quelques centaines de morts. Depuis, c'est à peu près 20 000 morts, plus les disparus. J'ai un chapitre sur des mères qui recherchent leurs fils qui ont été tués et qui ont été enterrés à droite à gauche.
Et qui vont essayer de les déterrer, justement.
Ouais, qui essayent de les retrouver les corps juste pour faire une sépulture, juste pour avoir ce droit. Et donc, depuis, c'est 20 000 morts et des dizaines de milliers de disparus. On parle de cartels. La notion de cartel qui est né en Colombie n'existe pas au Mexique. Il y a toujours une complicité entre des trafiquants, des politiques, des policiers, des magistrats. De dire il y a les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, ça c'est totalement faux. Donc je pense que ce qui fait des morts, les 17, 18, 25, 30 gamins qui sont assassinés chaque année dans les quartiers nord de Marseille, ce n'est pas dans la police qui tue des trafiquants. Ça, on se tue entre eux. Si on prend l'exemple d'un autre psychotrope, l'alcool,
qui fait plus de ravages que la drogue.
Qui fait 40 000 morts par an. Quand deux concurrents, quand Pernod Ricard est en concurrence avec je ne sais quel autre groupe de spiritueux, quand ils se battent pour des parts de marché, on ne s'entretue pas. Donc c'est effectivement le fait que la drogue soit illégale qu'elle provoque des pratiques meurtrières comme ça.
Vous dites quand même, et j'ai l'impression que c'est le fil conducteur, que finalement ceux qui trinquent, ce sont les petites mains de la drogue. Oui. sont pas les patrons de cartel ou les ténors, ce sont que les petites mains, parce que il y a tout un chapitre sur le tribunal, tous ces petits vendeurs à la sauvette de drogue, et puis effectivement vous parliez de ces enfants dont les mères recherchent les corps, c'est encore des petites mains. J'ai l'impression que c'est qu'eux qui trinquent.
Oui, c'est ça, et puis des fois il peut arriver que des grands trafiquants se fassent tuer, mais la plupart du temps ils sont emprisonnés. Il faut faire un exemple, et puis il y a aussi une dimension médiatique. El Chapo est une figure du mal dont les États-Unis avaient besoin.
Oui.
Voilà. Tous ces grands trafiquants, les chefs des cartels sont pratiquement tous en prison aujourd'hui. Et le problème, c'est les guerres de succession. Et là, effectivement, il y a toute une jeunesse qui peut se faire embarquer pour 500 ou 1000 dollars. On va vous demander de tuer quelqu'un. Voilà. Et il y a des régions au Mexique, comme ça a été le cas aussi en Colombie, et comme c'est le cas aussi dans certains coins en France, où la seule opportunité pour des gamins, c'est de rentrer dans une organisation ou dans un réseau de trafic.
Oui. Et puis, nos auditeurs le lire, mais il y a ce dernier chapitre aussi sur la famille, enfin, en tout cas, la famille Rodriguez face à la famille Escobar et ce témoignage du fils de Rodriguez, en fait, William Rodriguez, qui est assez édifiant. Et si vous avez regardé Narcos, la série Narcos, vous verrez qu'il n'est pas du tout d'accord avec ce qui est écrit. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Joachim Barbier. Ça
merci
s'appelle Narcotrip.
C'est un véritable roman. Hein.
C'est extraordinaire. Mais c'est passionnant, c'est en fait, parce que c'est vrai qu'on rentre.
C'est un road trip, quoi.
On rentre dans toutes ces clés d'entrée.
C'est Breaking Bad.
Il y a un peu de tout.
Il y a un peu de tout. En tout cas, lisez-le. Ça va remonter pas mal de choses chez vous. Et c'est aux éditions Flammarion. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et Patrick, je vous embrasse. À demain.
Oui. Non. Ma chère Cécile.
À demain.
Eh ben demain, c'est Jean-Marie Bordry qui sera aux commandes.
On ne s'appelle pas demain.
Non, on ne s'appelle pas demain. Jean-Marie Bordry qui sera aux commandes pour un 1er mai spécial demain matin avec Pierre-Maël Tisnes également.
Billy.
Et puis toute l'équipe. Et évidemment, ce soir, ne ratez pas l'émission entre 18h et 19h. Europe-moi si tu peux. Donc avec et si tu veux.
Oui, si tu veux.
Avec Christophe Bordet,
Alexandre Darmon.
Et le premier duel de nos européennes qui va nous conduire jusqu'au 26 mai, ce sera Yann Brossard face à Laurent Saillet, porte-parole des Républicains. Dans un instant, c'est Valérie Expert et ensuite Teddy Berkoff qui est en pleine forme avec son livre Le Retour des Peuples qui va sortir jeudi prochain.
J'ai été ravie de passer cette matinée avec vous, Patrick.
Allez, ciao, on vous embrasse.
Bye, salut.